RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Ravi de vous retrouver, Frédéric Rivière.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir. Svelte et bronzé. En cette rentrée agitée politiquement, nous recevrons à 18h30 Yann Brossat, qui est tête de liste du Parti communiste aux européennes et adjoint à la mairie de Paris. Mais notre première invitée est Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et présidente de Cap 21. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité politique donne le tournis. Aujourd'hui, ce matin, à l'heure du café, l'Élysée annonçait par communiqué la démission de la ministre des Sports, Laura Flessel. À l'heure du déjeuner, un autre communiqué donnait les noms des démissionnaires, des remplaçants aux démissionnaires. Nicolas Hulot, donc remplacé par François de Rugy, et Laura Flessel par l'ancienne nageuse Roxana Mara Sinewanu. Sur le remplaçant de Nicolas Hulot, qui vous intéresse au plus haut point d'ailleurs, Nicolas Hulot qui est en train de faire sa passation de pouvoir avec le nouveau ministre d'État, François de Rugy. Vous avez été, je le disais, ministre de l'Environnement. Donc François de Rugy, est-ce que c'est enthousiasmant ?
Non, pas vraiment, mais c'était quasi mission impossible de trouver quelqu'un d'enthousiasmant après Nicolas Hulot. Très franchement, trouver une personnalité qui ait des convictions écologiques aussi fortes que celles de Nicolas Hulot, la même.
Mais qu'est-ce qu'il en a fait de ces convictions ?
Il a essayé de les mettre en œuvre. Il s'est heurté à un mur, alors pour toute une série de raisons que on analysera dans le temps. Mais c'est quasiment mission impossible de trouver la personnalité qui va faire exploser de joie tout le monde. Alors François de Rugy, c'est un choix politique, c'est un homme politique, c'est pas société civile, c'est un écologiste, c'est indéniable. On peut pas lui retirer ça. Il a été chez les Verts, Génération Écologie d'abord, puis chez les Verts ensuite. Il a travaillé dans la communauté de Nantes comme élu écolo, puis député de cette circonscription. Donc c'est un écologiste. On peut pas dire qu'il est totalement illégitime et qu'il n'a rien à faire au ministère de l'écologie. Bon, ça n'assoit pas sa crédibilité. La crédibilité, il va falloir qu'il la crée. Ouais. Il dit « je veux agir », visiblement, ok. On attend les actes et on attend les arbitrages. Parce que François de Rugy a des avantages que Nicolas Hulot n'avait pas. Une très grande proximité avec le président de la République, sur la même longueur d'onde, donc ça permet d'obtenir des choses, peut-être plus facilement que Nicolas Hulot. Et la possibilité de s'appuyer très certainement sur des députés.
Ce que Nicolas Hulot... l'ensemble du groupe devrait soutenir.
Non, peut-être pas l'ensemble du groupe, je ne sais pas, mais parce que il va... S'il veut faire quelque chose, il va forcément se heurter des difficultés. Sinon, il fera rien. S'il n'a pas de difficultés, c'est qu'il fait rien. Bon. L'ensemble du groupe de la REM va pas forcément être toujours et totalement derrière lui, comme ça s'est passé pour le glyphosate, par exemple. On a bien vu que ça marchait pas comme ça. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait une partie des députés qui soient prêts à faire, non pas le coup de force, mais enfin à marquer leur différence à l'égard de l'ensemble des députés REM.
Mais est-ce que le président de la République n'est finalement pas un peu obligé de lui donner plus de marge de manœuvre qu'à Nicolas Hulot s'il veut éviter une nouvelle crise qui le discréditerait totalement comme président soucieux de l'écologie ?
Ah ben, il va bien falloir faire quelque chose.
C'est le sens de ma question.
Il va bien falloir faire quelque chose. Alors, j'ai bien entendu que les uns et les autres disaient « on change pas de cap ». C'est possible. Mais en attendant, il y a une attente. Je le disais tout à l'heure, François de Rugy, on peut pas dire qu'il n'est pas légitime. Mais pour le moment, la crédibilité, il faut qu'il l'acquiert. Comment il l'acquiera ? Il l'acquiera avec des arbitrages. Le premier qu'il va y avoir sur la table, c'est très simple, c'est la PPE. C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie et la question nucléaire. Ça va être le premier grand sujet. On va bien voir ce qu'il obtient. Il est clair que si...
Sur quoi, les fermetures, des fermetures de...
Oui, mais c'est même pas le plus important maintenant. Il y a les fermetures et puis il y a les ouvertures.
Ouais.
Les nouveaux réacteurs.
Les EPR.
C'est clair que s'il donne un feu vert à de nouveaux EPR...
Ouais, là c'est...
C'est mort. Sur la fermeture, il faut qu'il obtienne mieux que Fessenheim et qu'il essaye de tirer vers 2025, dont je rappelle que c'est toujours inscrit dans la loi,
ouais,
qui n'a pas été modifiée sur ce point. Donc il obtienne Fessenheim à très court terme, indépendamment de la question de Flamanville, que Flamanville ouvre ou pas, parce qu'on ne sait pas si ça ouvrira ni quand, et puis d'autres réacteurs. Donc là-dessus, on va voir. Les choix de la PPE vont être extrêmement importants pour juger de sa capacité à avoir obtenu quelque chose.
Ouais. Et on va revenir sur le fond, mais sur la forme. Le fait que ce soit un politique, un pur politique, bon, pas comme Nicolas Hulot, est-ce que ça peut, vous le disiez tout à l'heure, faut des troupes, hein, c'est ce que, dans le fond, se reprochait à lui-même Nicolas Hulot. Il disait, je suis tout seul, j'ai pas de troupes. Il a été à la tête de l'Assemblée nationale. D'être un pur politique, est-ce que c'est garanti d'un succès?
Non, parce que il aura ce que Nicolas n'avait pas, il n'aura pas ce que Nicolas avait. Je veux dire par là qu'il va avoir probablement beaucoup plus de facilité avec les élus, mais il en aura beaucoup moins avec le monde associatif. Je regardais sur les réactions sur les réseaux sociaux, dans le monde de l'écologie, franchement, elles sont très négatives. Très négatives. Je suis une des rares à dire je ne fais pas de procès d'intention et j'attends de voir ce qui va se passer. C'est très violent. Hein.
Pas seulement d'ailleurs dans le monde associatif. On va regarder, on va jeter un coup d'œil aux réactions d'un certain nombre de responsables politiques. Deux, en particulier Yannick Jadot, membre éminent d'Europe Écologie Les Verts et qui sera d'ailleurs tête de liste des écologistes aux élections européennes de 2019. Son tweet, voilà, mission difficile pour François de Rugy, membre éminent de la Macronie. Souhaitons-nous à tous qu'ils résistent au lobby des pesticides, du nucléaire, de la chasse. Notre présent et notre avenir en dépendent.
Oui.
Et puis,
moi, je lui ai souhaité bonne chance. Vous voyez, puis, donc je suis pas très loin.
Pardon.
Je lui ai souhaité bonne chance.
Oui. Mais d'ailleurs, hier, Nicolas Hulot souhaitait aussi beaucoup de bonheur. Alors, il y avait peut-être de l'ironie dans la formule à son successeur. Que lui souhaitez-vous que du bonheur. Et on va regarder ce qu'a dit également Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Alors, c'est encore plus dur. Hein, le président de séance, donc il parle de François de Rugy, qui a planté l'amendement contre le glyphosate à 2h du matin, devient ministre des apparences écologiques. Édouard Philippe reste l'apparence d'un Premier ministre. Bon, on reconnaît l'habileté stylistique de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, il y a quand même un procès, dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, un procès en légitimité.
Oui.
Vous le comprenez?
Je pense qu'il faut lui donner sa chance, parce qu'on a besoin d'un ministre de l'écologie qui soit fort. Franchement, si on commence tous à le tirer comme un lapin avant même qu'il ait ouvert la bouche, mais ça va être impossible. Donc c'est pour ça que moi, je suis sur une ligne assez réservée mais raisonnable, en disant il connaît les problèmes puisqu'il est écologiste, il les connaît, donc on peut pas dire qu'il ne sait pas. Il est conscient de l'urgence. Il a tout ce qu'il faut dans sa connaissance pour agir dans la bonne direction. Je ne vais pas lui faire un procès d'intention en disant qu'il ne le fera pas. Je suis dubitative, mais j'attends de voir.
Alors, il était sur ce plateau, François de Rugy, il y a à peu près en janvier 2017, à votre place. Écoutez ce qu'il disait d'Emmanuel Macron sur l'écologie. On l'écoute.
Premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre.
Voilà, donc ces petites phrases jouent contre Macron sur sa vision de l'écologie, et ça joue contre lui qu'on pourrait traiter d'opportuniste.
Vous voyez comme quoi le monde est plein de surprises. À l'époque, moi j'étais un soutien d'Emmanuel Macron en disant il n'est pas écologiste, c'est vrai, mais il comprend les problèmes et il va évoluer. Et je me suis éloignée, j'ai jamais fait partie de la Macronie, comme on le dit, mais je me suis éloignée parce que j'étais pas d'accord avec les décisions qui étaient prises et les choix qui ont été faits, et lui, il a fait le chemin inverse. Bah écoutez, j'espère qu'il se souviendra de ce qu'il disait comme candidat écologiste à la primaire de la gauche.
Est-ce que Emmanuel Macron a trouvé en François de Rugy ce en même temps entre l'écologie et l'économie? Parce que dans le fond, on a toujours reproché beaucoup reproche aux écologistes dans le fond de vouloir imposer l'écologie à l'économie.
Ben oui, mais si vous voulez, c'est un reproche qui a été largement fait. Et je dirais que pendant, à l'époque où j'étais ministre et pendant une dizaine d'années qui ont suivi, on pouvait admettre cette discussion-là. Je pense que compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que continuer à considérer que l'économie doit être première et qu'on s'occupe d'environnement une fois que les choix économiques sont faits, ben c'est nous condamner à terme, tout simplement.
Donc vous avez le même discours. Est-ce que vous considérez comme certain que le capitalisme est mauvais pour l'écologie? Parce que c'est le discours des écologistes en réalité.
J'entends bien. Je serai plus nuancée. Parce qu'il y a beaucoup de formes de capitalisme. Quand vous regardez les fondations, quand vous regardez par exemple le fonds souverain de Norvège, vous avez une finance dite patiente, c'est-à-dire qui est capable de travailler sur le long terme, qui est capable de permettre aux entreprises de faire des choix de long terme. C'est pas du tout la même chose que le capitalisme néolibéral débridé auquel nous assistons, qui oblige les entreprises à avoir des résultats trimestriels, semestriels et annuels absolument terribles en termes de rentabilité et qui empêche complètement toute vision de long terme et toute transformation. Donc, vous voyez, moi je serais moins catégorique. Sur le capitalisme, je pense qu'il y a beaucoup de formes de capitalisme. C'est plutôt le néolibéralisme qui pose problème.
Vous étiez, Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, il y a quoi? Il y a à peu près
22 ans.
22 ans.
En 95, donc 23 ans.
Oui. Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Vous disiez à l'instant, à l'époque, ce reproche qu'on pouvait faire à l'écologie, finalement une écologie qui coûte et qui rapporte rien, on pouvait l'entendre, en tout cas ça pouvait se comprendre. Aujourd'hui, les choses ont évolué sur ce point où finalement c'est toujours aussi difficile d'être ministre
Alors,
de l'Environnement?
Alors, je répondrai doublement à votre question. Les choses ont changé, oui, parce que la gravité de la situation a considérablement empiré.
On a beaucoup trop peu fait depuis cette époque.
En réalité, et surtout, la dégradation est beaucoup plus rapide que l'action que l'on mène. Donc, le fossé s'élargit. Mais il y a des choses qui sont à changer. Je me suis beaucoup amusée, si je puis dire, à relire ma quatrième de couverture d'On ne peut rien faire, Madame le Ministre, écrit en 1998, donc il y a exactement 20 ans, qui est à peu près, avec les mêmes mots, ce qu'a dit Nicolas Hulot en quittant le gouvernement à France Inter. Que ce soit sur les grands corps de l'État, que ce soit sur les autres ministères, que ce soit sur les lobbies, on a le sentiment qu'on n'a rien changé.
Mais alors, oui, pardon.
Est-ce que ça dépasse pas finalement la question de l'écologie, cette affaire-là, et que c'est le poids de l'administration, le poids incroyable de l'administration en France qui est en cause, au-delà, encore une fois, de cette stricte question environnementale?
Très largement. C'est le poids de Bercy, tout à fait, parce qu'effectivement, faut... Très rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais on a une manière de compter qui est stupide. On compte en PNB. Bon. C'est-à-dire que on est borgne. On compte ce qu'on ramène, on ne compte pas ce qu'on détruit. Nicolas Sarkozy avait lancé le rapport Stiglitz en 2007, précisément pour changer cette manière de voir les choses. Ça fait 10 ans. On n'en a strictement rien fait. Pourquoi on n'en a rien fait? Parce que Bercy ne veut pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'on reste sur une vision comptable qui date du 19e ou de la première moitié du 20e siècle. On ne compte pas les destructions auxquelles on parvient. Et conséquence directe, on ne fait pas payer dans l'économie. Et c'est pour ça qu'il y a une compatibilité possible de l'économie et de l'écologie, à condition d'avoir ce que l'on peut appeler une vérité écologique des prix. C'est-à-dire que le prix reflète ce que vous coûtez à la société. Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen aussi d'allier écologie et progrès scientifique? Et parce que là aussi, ça fait pas bon ménage. Le progrès, ça coûte de l'argent. Et deux, c'est encore plus peut-être polluant. Dangereux.
Je suis très progressiste.
Oui.
Je pense qu'il y a beaucoup de progrès possibles, mais il faut s'entendre sur ce qu'on entend par le mot progrès. Si vous entendez...
On va dire la technologie, la science.
Alors, c'est pas la même chose.
Oui, bon.
La science fondamentale, on en a impérativement besoin. La science appliquée, c'est déjà autre chose si ce n'est pas la conséquence de la science fondamentale. Les technologies, oui, on en a besoin. Mais toute technologie n'est pas un progrès. pensez que la bombe nucléaire, c'est un progrès, je suis pas tout à fait sûre.
Mais j'ai pas dit ça.
Non, mais vous l'avez pas dit. Mais c'est une technologie. Bon. Ouais. Donc, toute technologie n'est pas bonne à prendre. La technologie, elle s'apprécie en fonction de l'usage que l'on fait. Et deuxièmement, pour résoudre nos problèmes, on a besoin de nouvelles technologies. Donc, je vous dirai jamais, personnellement, que je suis contre une technologie a priori. Mais en revanche, ça ne.
Mais est-ce que l'écologie condamne le progrès? C'est un
non,
peu ça la question.
Non, pas du tout. Ouais. Pas du D'accord. tout. Pas du tout. Ça condamne une certaine vision. Si vous pensez que utiliser massivement les perturbateurs endocriniens parce que c'est des technologies nouvelles, c'est un progrès. Ah, moi,
non.
je pense pas.
Non,
voilà.
Non plus.
Bon, donc.
Je vous rassure.
Donc, mais je le pense bien. Donc, c'est quoi le progrès? Comment est-ce qu'on
D'accord,
le définit?
D'accord, mais votre définition est effectivement.
Pour revenir d'une certaine manière sur ce que disait François de Rugy sur ce plateau il y a un an et demi qu'on vient de voir, Emmanuel Macron, comment vous le situez sur l'échelle de l'écologie par rapport aux autres présidents de la République? Il est moins bien, équivalent, un peu mieux?
Bon. On n'a jamais eu, mis à part Jacques Chirac, dans son deuxième quinquennat, c'était pas le cas le premier.
Il a fait le constat, mais il n'a pas fait grand-chose. Quand il dit la maison brûle et on regarde ailleurs.
Il a fait quand même la charte de l'environnement, ouais. Il a imposé le principe de précaution à la Constitution, c'est à lui qu'on le doit quand même.
Oui, mais justement, pardonnez-moi, est-ce que le principe de précaution n'a pas justement empêché de faire des progrès, justement,
pas du
technologiques.
Tout. Non, pas du tout. Non. Le principe de précaution, d'abord, en France, on n'arrête pas d'en parler, mais on n'arrête pas de...
C'est interdit de faire du gaz de schiste, enfin, aller...
Mais on n'arrête pas de ne pas l'appliquer. Non, la question du gaz de schiste, c'est pas de la précaution, c'est de la prévention. La précaution, c'est un truc très particulier. C'est quoi? C'est le fait, lorsque vous avez des technologies dont vous ne connaissez pas les risques, de prendre des mesures de prudence. Quand vous connaissez les risques,
oui, mais
le gaz de schiste, on connaît le risque. On sait très bien ce que ça fait. Il suffit d'aller regarder aux États-Unis ce que ça fait.
Oui, mais
donc on est dans de la prévention.
Avec une des méthodes...
Mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autres.
Mais oui, mais je crois qu'aujourd'hui, le principe de précaution interdit même de réfléchir à méthodes éventuelles d'extraction.
Le principe de précaution n'a jamais été un principe anti-recherche.
Ouais.
Non. Le principe de précaution, c'est de dire...
Tout le monde n'est pas de votre avis, je ne parle pas de moi, je parle de spécialistes.
Oui, je sais, mais il n'empêche que la réalité, c'est celle-là. Le principe de précaution, c'est de se dire quand on ne sait pas, on cherche à savoir. Premier principe. Et dans l'attente de savoir, on prend des mesures qui peuvent être, certes, l'interdiction, mais qui peuvent être simplement de l'information. Les téléphones portables, par exemple. Vous avez plein d'études qui disent que ça a des conséquences sur le cerveau. Bon, c'est pas pour ça qu'on va se passer des téléphones portables. Simplement, on informe les gens qu'il faut pas la coller à l'oreille toute la sainte journée, et on a inventé ce qui s'appelle un kit main libre qui permet de ne pas coller le téléphone à l'oreille. Donc, vous voyez bien qu'il y a des manières de gérer la précaution qui ne sont pas l'interdiction.
Alors, si on prend un exemple, par exemple la Chine, qui a été, qui ne l'est plus vraiment, vous me corrigez si je me trompe, le plus gros pollueur de la planète avec les États-Unis, et toujours. Mais il y a une mue écologique qui est en
considérable.
Train, considérable, qui est en train de se faire. Notamment sur, je crois, les éoliennes, c'est ça?
Non, il y a les panneaux solaires.
Les panneaux solaires, pardon. Voilà.
Et d'ailleurs, l'Union européenne, depuis aujourd'hui, n'impose plus de taxes aux panneaux solaires qui viennent en
absolument.
Chine. C'est intéressant de savoir en deux mots, interroge si vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais, peut-être.
Si vous voulez, là encore, c'est un autre sujet. L'arrivée des panneaux chinois a tué l'industrie européenne.
Oui, voilà. Malgré les taxes.
Mais, elle a permis une massification du solaire extraordinaire, une baisse de 75% des coûts, et on attend une nouvelle baisse de 75% des coûts du solaire dans les 10 ans qui viennent, ce qui fait que c'est devenu l'énergie la moins chère. Donc, vous voyez, c'est pas facile d'avoir des réponses binaires sur des questions qui ne le permettent pas.
Alors, une question.
Et la Chine change.
Oui.
J'y étais au mois de juillet, dans une petite ville moyenne.
Donc là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme dirait l'autre.
4 millions d'habitants, quand même, à une grande conférence sur le climat, à laquelle assistait Jerry Brown, gouverneur de Californie. Et c'est un pays qui, maintenant, investit massivement contre la pollution. Ça, c'est clair.
Voilà, ça sera le mot de la fin. On arrive au terme de cette première partie de Mardi Politique. Merci.
Merci à vous.
Pauline Lepage, et on se retrouve tout de suite avec notre deuxième invité.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Merci de nous rejoindre dans Mardi politique sur France 24 et RFI. Avec Frédéric Rivière, nous accueillons notre deuxième invité qui est Yann Brossat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes tête de liste du Parti communiste pour les élections européennes et puis vous êtes adjoint à la mairie de Paris. Donc, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, enfin l'ancien président de l'Assemblée nationale, est le nouveau ministre de l'écologie. C'est bien ?
D'abord, je lui souhaite évidemment bon courage. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un casting dégradé. Remplacer Nicolas Hulot par François de Rugy, c'est quand même le symbole d'un casting qui est dégradé par rapport au casting précédent. Et puis surtout, quand j'entends ce que disait François de Rugy il y a encore quelques temps sur Emmanuel Macron et l'écologie, j'ai surtout le sentiment...
Vous voulez le réécouter ? Il était sur, c'était sur ce plateau, on va l'écouter.
Bah,
écoutez, on va réécouter donc François de Rugy, qui était l'invité de Frédéric et moi, d'ailleurs, dans cette émission. Mardi politique, je vous propose de l'écouter, si c'est possible.
Premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre.
Alors cette petite phrase joue contre Macron parce que il a l'air de dire que l'écologie c'est pas son souci et ça joue aussi contre lui qui contre Rugy qui passe pour un opportuniste.
Bah, François de Rugy est d'une certaine manière aujourd'hui le ministre des retournements de veste et personne ne peut penser autre chose. Il a cédé à une ambition personnelle. Et puis par ailleurs, on voit bien comment toute cette affaire arrange un certain nombre de choses pour La République En Marche. C'est un moyen de permettre à Richard Ferrand de devenir président de l'Assemblée nationale. Et on se dit quand même que le nouveau monde ressemble furieusement à l'ancien.
Mmh. Casting dégradé, vous avez dit, parce que on ne peut pas vraiment comparer, dites-vous, Nicolas Hulot, à François de Rugy. Le propos est quand même assez peu aimable. De quoi parlez-vous quand vous dites casting dégradé ? C'est en termes d'image ou en termes de compétences également ?
Nicolas Hulot, qu'on le veuille ou non, était un combattant de l'écologie. Mmh. Et il incarnait, aux yeux des Français, ce combat de manière extrêmement puissante. C'était d'ailleurs une belle prise de la part d'Emmanuel Macron, d'autant que Nicolas Hulot n'avait pas accepté d'être ministre jusqu'alors. Et donc, de fait, on peut...
Mais là, vous raisonnez comme un producteur de cinéma, c'est-à-dire il faut une belle tête d'affiche. Mais...
Non, mais François de Rugy, de fait, n'a pas le même poids dans l'opinion publique. Et c'est aussi un signal qui est envoyé. C'est le signal qu'au fond, le gouvernement ne fait pas grand cas de cette question de l'écologie. Et donc, je pense que c'est dommageable.
Mais un politique habitué donc au rouage de cet univers, qui aura sans doute le soutien au moins d'une très grande partie du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui a, dit-on, l'oreille et la confiance du président de la République, pourra peut-être... faire sauter des verrous que Nicolas Hulot, lui, ne pouvait pas faire sauter.
Je n'y crois pas une seule seconde. Et je pense que il y a une difficulté qui est une difficulté de fond. C'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est acquis à des politiques libérales, des politiques qui visent à augmenter le profit des entreprises sur le court terme. Et tout cela n'est pas compatible avec une ambition écologiste. D'ailleurs, Nicolas Hulot l'a bien compris et sa démission est bien le signe qu'on ne peut pas à la fois courir après la loi de l'argent et mener une politique écologiste.
Mais est-ce que ça, c'est pas une idéologie de considérer que le capitalisme est l'ennemi de l'écologie ? Est-ce que c'est pas un vieux discours, un vieux disque rayé ?
Ce qui est certain, c'est que la loi de l'argent, la loi du fric, elle consiste à tirer le profit le plus important dans les délais les plus brefs. Tout cela n'est pas compatible avec...
Mais la loi du fric, c'est aussi faire des progrès technologiques
pour... Bien sûr. Mais je ne suis absolument pas hostile au progrès. Simplement, ce que dit Nicolas Hulot est, de mon point de vue, extrêmement clair. Et il a raison de le dire. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est un gouvernement libéral, qui souhaite promouvoir la loi du fric partout. Et on ne peut pas à la fois défendre la loi du fric et défendre l'intérêt ni des hommes ni de la planète.
Est-ce que vous avez peur qu'avec François de Rugy, dans le fond, Emmanuel Macron ait trouvé son « en même temps » en même temps l'écologie et en même temps l'économie.
Non, je pense que aujourd'hui, Emmanuel Macron apparaît de manière de plus en plus claire pour ce qu'il est depuis le départ, un homme de droite. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement unijambiste qui est complètement acquis à la cause libérale. Nous le voyons sur les questions sociales. Enfin, quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gouvernement qui assumait à ce point d'appauvrir les Français. Lorsqu'Édouard Philippe donne une interview il y a encore quelques jours dans le journal du dimanche, un peu plus d'une semaine, et dit « nous allons geler les prestations sociales, les allocations familiales, les APL, les retraites », enfin c'est quand même invraisemblable. Donc on n'a pas de « en même temps ». On a aujourd'hui un gouvernement de droite qui mène une politique antisociale extrêmement violente.
Comment vous expliquez, Yann Brossat, que la transition écologique rencontre autant d'obstacles, autant de difficultés, alors qu'une très grande majorité de Français adhèrent à l'idée qu'il faut, qu'il faille, en effet, opérer cette mutation de la société?
Et parce qu'il y a un poids des lobbies qui est absolument énorme.
Mais vous êtes sûr que c'est que ça? Que ça n'est pas, d'une part, une écologie qui a longtemps été un peu punitive, un peu rébarbative, et d'autre part, tout ce qui n'est pas l'écologie dans le programme des partis écologistes?
Non, mais d'abord, je crois que l'écologie ne doit pas être la propriété d'un parti politique et que tous les partis politiques doivent s'emparer de ces problématiques-là, vu l'urgence qu'il y a aujourd'hui en la matière. Mais bien sûr qu'il y a des lobbies extrêmement puissants. Quand vous voyez à quel point, à Paris, lorsque la maire de Paris a décidé, par exemple, de piétonniser les voies sur berge, regardez les réactions que nous avons eues, regardez la mobilisation d'un certain nombre de corps constitués qui ont dépensé des millions d'euros pour réaliser des recours devant la justice et pour essayer d'obtenir le retour de la voiture. Le lobby du diesel a été derrière cette mobilisation-là, y compris financièrement. Donc bien sûr que le poids des lobbies financiers est aujourd'hui prépondérant.
Mais Yann Brossat, à Paris, par exemple, puisque vous prenez l'exemple, je crois que la pollution ne s'est pas arrangée.
Ce n'est pas vrai.
On a même dit que le fait d'avoir surélevé, d'avoir fermé les voies sur berge avait concentré la pollution au-dessus.
Il y a eu globalement sur Paris une diminution du nombre de voitures sur les voies et une diminution de la pollution. Il y a eu dans un certain nombre d'endroits, effectivement, une augmentation de la pollution. Mais sur le moyen terme, je suis convaincu que ces mesures porteront leurs fruits. Mais posons-nous une question.
Non, mais simple. Là où je voudrais aller jusqu'au bout de la démonstration, c'est-à-dire que ce que disait Frédéric tout à l'heure sur le côté punitif, effectivement, de l'écologie, c'est pour ça que souvent ça ne marche pas. Est-ce que vous avez mis en place les autolibes, ça n'a pas marché, ça s'est cassé la figure. Est-ce que vous avez trouvé des solutions pour que les gens roulent plus à vélo, pour qu'ils prennent les transports en commun? Qu'est-ce qui a été développé pour que les Parisiens polluent moins et prennent moins leur voiture?
D'abord,
je vous demande parce que...
D'abord, soyons extrêmement clairs, aucune ville en France ne bénéficie d'un réseau de transport en commun aussi performant que Paris. On pourrait toujours dire qu'il faut améliorer la situation dans le métro et dans le RER. C'est le problème de Madame Pécresse qui est en charge de ce sujet. Mais enfin, quand même, on a un réseau de transport en commun qui est unique au monde. Aucune ville ne peut se prévaloir d'un tel réseau. Donc quand on voit que l'écrasante majorité des Parisiens aujourd'hui n'ont plus de voiture, c'est qu'il y a une raison. C'est tout simplement parce qu'on a la possibilité de se déplacer grâce au transport en commun.
La mairie de Paris a dégoûté les automobilistes.
Non, parce que beaucoup de Parisiens ont pris conscience de cette urgence écologiste. D'ailleurs, la maire de Paris, quand elle a été élue sur un programme. Et dans ce programme, il y avait la piétonnisation des voies sur berge. Donc on ne peut pas reprocher à la ville de Paris d'appliquer le programme pour lequel elle a été élue.
Non,
elle a annoncé
la
couleur.
Reproche pas ça. On peut vous reprocher de ne pas avoir trouvé de solution secondaire.
Il y a des solutions. Il y a évidemment des solutions alternatives. D'abord, je vous le dis, les transports en commun. Deuxièmement, la situation de Vélib est en train de s'améliorer et elle va s'améliorer très fortement dans les semaines qui viennent. Et donc, il y a bien sûr des solutions alternatives.
Mais Autolib, par exemple, c'est un vrai coup dur pour des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, je ne sais pas exactement.
En tout cas,
pour des dizaines de milliers d'usagers qui en avaient fait leur moyen de transport quotidien. Ils avaient une voiture non polluante, et d'un seul coup, ils sont piétons. Et quand vous avez 10 km ou 15 km à faire pour aller sur votre lieu de travail, c'est pas forcément évident de le faire à pied ou en trottinette.
Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que dans la situation dans laquelle nous étions, il fallait payer un chèque de dizaines de millions d'euros à Bolloré? Je n'en suis pas convaincu. Maintenant, la question qui nous est posée, effectivement, c'est de trouver des solutions alternatives rapidement avec des véhicules électrique, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer.
Mais c'est un raté, il y a un raté de ce côté-là.
Il y a eu évidemment un raté, mais qui sera très vite corrigé, puisque nous allons voir se déployer dans les mois qui viennent des solutions alternatives, notamment Renault s'est engagé sur cette voie, et je suis convaincu qu'on en verra les effets dans les jours qui viennent.
La saleté de Paris a été pointée aussi, d'ailleurs par Jack Lang, qui est comparé avec une ville asiatique. Voilà, est-ce qu'il y a des progrès qui vont être faits en la matière ?
Il y a des progrès, bien sûr, mais regardons les choses très clairement. Si les rues sont sales, c'est qu'il y a des gens qui salissent. Et il faut aussi être capable de responsabiliser ceux qui salissent de manière tout à fait indue à un certain nombre de rues de Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai, comme élu en charge du logement, pris un certain nombre de décisions. Nous avons, par exemple, mis en place un système de PV dans nos immeubles de logements sociaux. Il n'est pas normal qu'un certain nombre de locataires jettent, par exemple, des déchets par les fenêtres. Et donc, il y a désormais des agents sont assermentés. Il y a désormais des agents qui sont assermentés et qui ont la possibilité de faire des PV dans ces cas-là.
Oui,
et
je peux vous dire, au bon moment, quoi.
Je peux vous dire qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont été dressés. Et ceux qui ont reçu leur PV ne recommenceront pas dans les mois qui viennent.
Un petit mot, puisqu'en fait je crois qu'on est toujours dans l'attente de la réponse du gouvernement, peut-être le Premier ministre le dira-t-il tout à l'heure à la télévision, mais sur la question du prélèvement à la source, on sent qu'il y a de l'hésitation à mettre la réforme en place. Quelle est votre position ? Vous y êtes favorable à cette
Moi, je n'y suis pas favorable, parce que cette réforme pose un certain nombre de problèmes, et notamment un problème de confidentialité. J'estime qu'il n'est pas du rôle des chefs d'entreprise de connaître les revenus du ménage, parce qu'on peut très bien se retrouver dans une situation où le chef d'entreprise sait, par exemple, que la femme de tel ou tel salarié est bien payée, et le jour où ce salarié demandera une augmentation de salaire, il lui dira, après tout, ta femme est correctement payée, on n'a pas besoin de t'augmenter. Donc je ne suis pas favorable à cette réforme. Et par ailleurs, ce qui me frappe quand même, c'est que cette réforme est complètement à côté de la plaque par rapport aux préoccupations des Français. La préoccupation des Français en ce moment, et notamment des classes moyennes, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est pas la question des moyens par lesquels on prélève l'impôt. C'est la question de la somme qu'on a dans les comptes en banque. Et l'ensemble des décisions prises par le gouvernement depuis quelques mois sont des décisions qui appauvrissent les Français. D'ailleurs, le pouvoir d'achat des Français a régressé premier trimestre 2018.
On va en parler du pouvoir d'achat, mais pour revenir sur cette réforme des impôts, pour la préparer, ça a coûté 200 millions d'euros, si je ne m'abuse, pour préparer cette réforme. Si elle est abandonnée, c'est 200 millions qu'on aura pris dans la poche des Français.
Vous avez raison, mais le parti que je représente, le Parti communiste en l'occurrence, n'a jamais été favorable à la mise en place de cette réforme. Et puisque vous évoquez les 200 millions qui ont été consacrés à la mise en place du prélèvement à la source, je ne peux pas m'empêcher de penser une chose quand même, c'est qu'on aurait mieux fait d'investir cet argent pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, qui coûte chaque année 80 milliards d'euros à l'État. 80 milliards d'euros qui partent en fumée parce qu'un certain nombre d'entreprises ou de particuliers se livrent à de la fraude fiscale. Ben, si cet argent, si ces 200 millions d'euros avaient été consacrés à un renforcement de la lutte contre l'évasion fiscale, ça aurait été un argent mieux utilisé.
Mais c'est un peu un serpent de mer, l'évasion fiscale.
Oui, enfin, c'est un serpent de mer.
On venir à bout.
Quand même, 80 milliards d'euros pour la France, 1000 milliards d'euros à l'échelle de l'Union européenne.
Mais comment c'est concrètement...
D'abord, on arrête de dépecer les services des impôts. Parce qu'au cours des 10 dernières années, il y a quand même eu 30 000 suppressions d'impôts, 30 000 suppressions d'emplois au service des impôts. Donc, permettons une lutte efficace contre l'évasion fiscale. Travaillons aussi à une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Europe. Quand on voit à quel point l'Europe est aujourd'hui une passoire fiscale avec des taux d'imposition extrêmement variables, on se dit qu'on a besoin d'améliorer les choses. Vous savez, je lutte beaucoup à Paris sur une entreprise que certains connaissent, Airbnb. Ouais. Aujourd'hui, Airbnb en France paye 100 000 euros d'impôts. C'est autant qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Est-ce que c'est normal quand on sait quel est le chiffre d'affaires de cette entreprise qui s'est débrouillée pour localiser ses activités fiscalement en Irlande, qui est évidemment un État dans lequel le taux d'imposition sur les sociétés est trois fois moins élevé qu'en France. Ça n'est pas normal. Et à mon avis, le gouvernement ferait bien de s'attaquer fortement contre cette évasion fiscale.
Emmanuel Macron connaît des moments un peu difficiles. Il y a donc la démission de Nicolas Hulot. C'est moins important sans doute pour lui, mais enfin la démission de la ministre des Sports, Laura Flessel. Il y a cette question du prélèvement à la source, il y a sa cote de popularité qui baisse considérablement, moins 10 points là dans l'une des dernières enquêtes d'opinion. Il est à 31% de bonnes opinions. C'est un peu moins bien que François Hollande au même stade de son quinquennat, il faisait 32%. Que se passe-t-il ? C'est vrai que Emmanuel Macron a été assez largement accueilli en France, en Europe et dans une partie du monde comme une espèce d'être quasi surnaturel. Il est en train de devenir un président ordinaire avec les difficultés ordinaires d'un président de la République.
Il est en train de se normaliser, en tout cas, de se banaliser. Il n'est plus en marche, il est en panne. Et je pense effectivement qu'il a un certain nombre de difficultés qui font qu'aujourd'hui, il n'est plus dans la même situation qu'il y a un an. C'est très clair. Et donc, il va devoir en rabattre un peu sur l'arrogance qui était encore la sienne il y a quelques mois. Tant mieux, d'ailleurs.
Mais est-ce que tout de même, ce qui lui est reproché, c'est à la fois trop d'autorité et on lui reproche également d'avoir des petites phrases ou de dire des gros mots. Est-ce qu'on peut demander l'un et l'autre ? Est-ce que c'est pas contradictoire ? Est-ce qu'un président de la République, dans le fond, s'est enfermé dans un linceul ou dans comme un gisant ? Est-ce que il n'a pas aussi droit de s'exprimer, de faire un peu de l'humour ? Ou vous considérez que il doit rester dans cette position de la Ve République un peu gaullienne ?
Je dirais qu'on lui reproche deux choses. D'abord, effectivement, une pratique du pouvoir autoritaire et une forme de mépris, et notamment de mépris à l'égard des plus fragiles, des plus faibles, de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui ne sont pas les gagnants de la mondialisation. Et puis, par ailleurs, on lui reproche sur le fond, je crois, une politique qui est une politique injuste, qui frappe les classes moyennes et qui ne profite qu'à une toute petite partie de la population. Quand on voit quand même que les plus riches ont bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, ça a coûté 3,5 milliards d'euros aux finances publiques, alors que dans le même temps, les classes moyennes trinquent, je pense que les Français ont quelques raisons d'être en colère.
Je voudrais qu'on évoque un peu les élections européennes, c'est pas tout de suite, mais enfin les partis commencent à tourner le regard vers cette échéance. Vous serez tête de liste pour les européennes, donc en mai prochain. Vous souhaitez que le débat porte sur quatre grands sujets, le travail, les services publics, l'évasion fiscale et les réfugiés. À propos des réfugiés, vous avez dit il y a quelques jours, nous ne devons rien lâcher sur l'accueil des réfugiés. La question n'est pas de savoir s'il faudra en accueillir plus, la question est de savoir dans quelles conditions nous allons les accueillir. Quand vous voyez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, un peu partout avec la très forte montée des partis populistes, voire nationalistes, est-ce que vous ne pensez pas que ce discours, plus que fataliste, volontariste sur l'accueil des réfugiés et des migrants, finalement favorise la progression de ces partis ?
Ah, je pense que c'est l'inverse.
Et vous pensez qu'en Allemagne, la politique d'Angela Merkel n'a pas favorisé la progression de l'AFD, par exemple ?
Non, je pense que nous souffrons au sein de l'Union européenne d'une absence de gestion à l'échelle de l'Europe de cette situation. L'Allemagne, en réalité, elle a accueilli en lieu et place de tous les autres. Et elle a accueilli beaucoup plus que tous les autres, parce que beaucoup d'autres se
donc
sont carapatés.
Donc ça expliquerait le rejet
sur cette question-là.
C'est la question de Frédéric.
Oui, mais ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il nous faut travailler à l'échelle européenne à un accueil qui soit équitablement réparti. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à une clé de répartition à l'échelle de l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Ne sont pas d'accord.
Mais il faut aussi que les responsables politiques, a fortiori les responsables politiques de gauche, assument un discours d'accueil. Et je suis effaré de voir qu'un certain nombre de responsables politiques de gauche aujourd'hui ne disent rien sur ce sujet et font preuve d'une couardise qui est une couardise coupable. J'ai notamment vu qu'une ancienne dirigeante d'un parti de gauche allemand, Die Linke, est en train de fonder un mouvement anti-migrant.
Aufstehen, enfin, qui veut dire debout en allemand. Anti-migrant, c'est peut-être beaucoup dire, mais un parti qui n'hésite pas à critiquer, en effet, la politique migratoire.
Et l'épouse d'Oscar Lafontaine,
dans 20 ans, nous aurons honte de ce que nous avons été incapables de faire sur cette question des réfugiés. Donc je le dis très clairement, s'il y a un candidat dans cette campagne qui assumera un discours d'accueil et un discours d'accueil digne, ce sera moi. Et il n'est pas question de lâcher sujet fondamental.
Est-ce que vous êtes en train de dire il faut les accueillir quoi qu'il arrive ou alors il faut les accueillir si on peut dignement les loger, les nourrir et leur donner du travail ?
La première,
c'est pas la même chose.
La première, c'est qu'ils arriveront. Parce que, de fait, quand on fuit la guerre, la misère, on se débrouille pour arriver.
Oui, donc la seule question, plus ou moins donc, selon la politique du pays vers lequel ils se dirigent.
Aujourd'hui, la seule question qui se pose à nous, c'est comment on organise l'accueil et comment on fait en sorte que ceux qui arrivent arrivent d'abord dans des conditions convenables, soient hébergés et ne dorment pas dehors, et deuxièmement, soient intégrés. Et je pense que nous ferions mieux de concentrer nos efforts là-dessus plutôt que d'essayer de construire des frontières extérieures qui, de toute façon, sont en réalité des passoires. Les pays de l'Union européenne, depuis le début des années 2000, ont mis 15 milliards d'euros à essayer de construire des frontières extérieures qui n'ont pas fonctionné. Consacrons cet argent-là à faire de l'accueil et de l'accueil digne pour ces réfugiés.
Merci Yann Brossard, c'est la fin de cette émission.
Et pour la reprise, on est un peu en mode diesel, mais on sera en pleine forme la semaine prochaine.
Et on se retrouve mardi prochain.
Merci à Camille Nérand et merci à Charlotte Urien-Tomaca d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour avoir réalisé. À très vite, merci.